de la poignée de ce point. Alors, entendons bien qu'il y a un tel choc de énoncer et formulation du changement de programme que on comprend pourquoi, ce que nous dit le texte, le peuple a réclamé que ce soit Dieu lui-même qui se dévoile. C'est à ce point que nous sommes arrivés. Ensuite, il nous reste encore ce matin, nous reprendrons la première lecture, la première situation, c'est les enfants de Jacob qui s'adressent à leur père, et il va nous rester, donc, j'espère qu'on aura entendu tout ça, la troisième lecture, celle qui aura lieu à la fin des temps, et nous verrons déjà dans le commentaire de Rashi sur ce verset. Alors ça fait beaucoup de choses que nous avons en introduction. Dans tous les cas, vous reprenez votre chapitre 19 d'abord dans le texte. Et pendant que vous préparez, je vous raconte une histoire. Il y a une dizaine d'années, je devais faire une conférence à Lille. Et j'étais recruté là-bas avant. Donc j'arrivais juste à la faire l'université. Et puis on arrive et le portier nous dit, mais pressez-vous, ça a commencé. Bon, on s'est rappelé quand même. Madame, ce matin, il est arrivé quelque chose de Dieu. J'arrive, et puis un autre, il y avait une gentille fille qui me dit, c'est pour le séminaire de Je vais faire venir de la bibliothèque le livre de Shmot avec Rashi. Quelqu'un a ses visages dans la bibliothèque. Shmot avec Rashi.
Elle n'est pas là, la bibliothécaire ?
Ça fait rien. Et je demandais à M. Rostrum. Alors, en attendant quelques minutes, peut-être on peut en profiter pour élucider.
Et ton histoire ?
Eh bien, c'était ça.
Ça a commencé ?
Fallait vous rappeler, vous avez une histoire à...
Ah oui, le contexte.
Vous nous avez pas donné l'indication.
C'était à quel moment ?
De tout.
Oui, de tout.
Et à quel propos ?
J'ai commencé
le sac. Oui, je m'en rappelle plus, mais... Donc, c'est une année qui était là hier soir. Bon, ça mérite que je revienne sur un point. Ce qui s'est passé hier, et il y avait trop de choses. D'ailleurs, il y avait deux conférences dans une seule, et on n'a pas eu le temps. Enfin, pour ceux qui continueront à venir à l'enfant du soir, on a obtenu qu'on puisse aller plus longtemps. À un certain moment, et j'avais dit, par rapport à l'exposé de mon cher Rostrum, présenter la thèse de Maïmonide sur l'historique des croyances païennes, que j'étais frappé, c'était pas la première fois d'ailleurs, parce qu'on parle de ce problème en langage universitaire, j'étais frappé par quelque chose qui est extrêmement gênant pour un juif de la tradition juive, qui s'est situé, c'est d'expliquer pour tout le monde. Présenter quelle est la relation à l'objet de la foi religieuse, qu'elle soit monothéiste, donc dans l'authenticité de la tradition hébraïque, qu'elle soit polythéiste, païenne, et comme uniquement un phénomène intellectuel, un essai pour l'homme de s'expliquer le monde, de faire appel à l'idée de Dieu, des dieux, et donc un phénomène de croyance que l'homme se forme par lui-même, et qu'il y aurait une différence de nature entre la manière dont les Hébreux aurait fait fonctionner leur intelligence et abouti au monothéisme, alors que toutes les autres nations faisant fonctionner l'intelligence humaine qu'ils possèdent n'aboutirait comme par fatalité qu'au paganisme, il y aurait là un risque de racisme hébraïque. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Ça voudrait dire que seuls les Hébreux avaient une raison saine. Et c'est extrêmement gênant des thèses de ce genre. Regardez les pièges des postulats universitaires. En fait, l'expérience religieuse ne passe pas d'abord par l'intelligence et par la raison. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer, mais les universitaires de la salle n'ont rien entendu, parce qu'il semble que les universitaires de la salle ne comprenaient pas. Je parle des universitaires juifs, parce que j'ai remarqué que ce qui n'était pas juste comprenait plus vite.
On a du droit.
D'accord. Ce que dit le Shema Israël, je vais vous citer André Chourat. Il nous disait un jour, Shema Israël, écoute Israël. Eh bien, pour écouter, il faut se taire. Faites silence. Alors, lorsqu'on a l'oreille encombrée des postulats universitaires, on n'arrive pas à entendre de quoi il s'agit. Alors, je voulais m'expliquer sur ce point, parce que c'est un point important. Le conflit, le débat entre les rabbins traditionnalistes et les universitaires concernant, par exemple, Maïmonide, ce problème, est extrêmement important. Il ne s'agit pas de l'histoire des idées, de l'histoire des croyances. Il s'agit d'une mémoire de tradition par quoi l'identité hébraïque a une expérience religieuse différente de celle des autres nations, mais ça ne passe pas par la capacité de raison. Est-ce que c'est clair ? L'intelligence humaine est universelle. Il y a des différences au niveau, si vous voulez, j'ai employé des approximations de signification, au niveau des cultures. Et ça, c'est légitime, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une humanité une, il y ait des cultures différentes parce qu'il y a des styles humains différents. Mais la manière dont la raison, l'intelligence expose les croyances de l'âme est seconde. Ce n'est pas d'abord une découverte intellectuelle, ma relation à Dieu, que je sois juif ou non juif. C'est une expérience de l'âme. Et que l'âme est une effectuation culturelle en fin de compte, culture au sens noble du terme, y compris l'expérience de la vie spirituelle. Différence est légitime, il y a des hommes. Il y a des vénés à l'âme, et c'est pourquoi, peut-être nous pourrons revenir un peu plus en détail jeudi soir sur les aspects de ce problème, c'est pourquoi, je vous cherche le verset d'ailleurs, la Torah dit, ben, chacun ses dieux, chacun ses symboles, chacun ses expériences, et c'est légitime. Mais le problème du conflit, c'est celui de la loi morale, et non pas de la vérité entre Israël et les nations. Est-ce que nous condamnons les paganismes, les idolâtries qui mènent avec eux les humanités. C'est à ce niveau que le débat est important. Mais c'est l'idée que l'expérience religieuse est d'abord une expérience philosophique et que seuls les Hébreux aient été des vrais philosophes, c'est une idée universitaire. Vous comprenez ce que
c'est que... Bonjour, maître, si on vous dit une parole à vous, il n'y avait pas une différence de style. Nous serons rassemblés comme un garage de voitures de porte. Heureusement qu'il y a une différence.
Oui, uniformité.
Uniformité.
C'est-à-dire que nous serions des bactéries évoluées dans des bactéries.
Est-ce qu'on pourrait, dans le cadre des conférences du soir, est-ce que ce serait possible, d'insister sur la différence et d'expliquer la différence entre une morale païenne et une morale monothéiste?
Oui. Mais je vous dirai une phrase qui me semble importante dans le... je tiendrai compte pour le débat du dimanche. Okay. Je tiendrai compte aussi de l'intervention d'un monsieur sur la droite, qui me semble être aussi psychanalyste, et qui demandait un diagnostic des paganismes contemporains.
Il est là.
Ah, il est là? Qui est?
Ah ben, c'est vous.
Ah, en tout cas, vous êtes au courant, parce que je sentais que votre vocabulaire était... Quand vous avez posé une question, est-ce que vous... Oui, ça, j'étais dans le discours. Je crois que nous allons arriver avec la troisième lecture avec Rachid. C'est que le paganisme, alors, enlever le pathétique négatif du mot païen, c'est pas joli. Disons, la religion païenne, étymologiquement, c'est la religion du paysan. Dans l'étymologie française, l'homme du pays, étymologiquement, du paysage. Chaque paysage ayant son style d'homme. C'est clair. Ça vient du latin, païen, ça veut dire d'abord l'homme d'un pays, dans le sens fort du terme. Et ce religion a eu révélation, et pas révélation intellectuelle d'abord, a eu révélation de ce que le vocabulaire grec appelle le sacré dans le monde. Ce qui pour nous est la définition même du paganisme dans toute son horreur, le sacré. La catégorie qui est hébraïque, c'est la sainteté. Et c'est différent. Et évidemment, cette difficulté de vocabulaire de traduire les mots en français dans ces notions, mais là, je pense que c'est important. Monsieur Lévinas a écrit beaucoup de choses très pertinentes sur cette différence entre le sacré et la sainteté. Traduire la kedusha. Le sacré étant l'expérience magique de la conscience magique corollaire de la conscience religieuse, mais c'est très différent. Il y a le danger de la conscience magique. Et c'est un peu, c'est ça dont nous parlerons dans le diagnostic des paganismes modernes, c'est-à-dire la réirruption de la conscience magique dans la civilisation contemporaine, c'est-à-dire la véridicité, je vous donne un tout petit exemple de la différence de comportement de la conscience magique au niveau, par exemple, et de la conscience religieuse au niveau de la prière. En partant très rapidement d'une étymologie latine. Du même mot latin, précari, qui est aussi une latine, qui a donné le terme précaire en français, qui est très exactement la notion que l'on peut employer en français pour définir ce qu'est l'objet de la prière. C'est un bien essentiel, mais qui manque de façon précaire et qu'on ne peut pas obtenir par le travail naturel et qui est objet de prière. C'est clair dans ce raccourci. Et là, le latin nous aide à trouver un exemple de la différence de comportement entre la conscience magique et la conscience religieuse, dans le sens strict. C'est que du de la racine, mais de la même racine, viendra le mot de imprécation, qui est la liturgie magique, et prière, qui est la liturgie religieuse. Dans la prière, on s'adresse à quelqu'un, alors, et on demande, dans la situation de celui qui demande la chose précaire, et qui ne peut l'obtenir que de celui qui en dispose. Okay? C'est clair. Alors que dans le comportement de la conscience magique, on commande à la force qu'on a diagnostiquée par une imprécation. Et là, ce sont deux expériences absolument différentes, mais qui, dans la nature humaine, dans les tendances de la nature humaine, risquent de se mêler à certains niveaux des fluctuations de l'existence. Par conséquent, il est normal de trouver autant, je crois, 52 fois dans la Torah, d'exhortation aux Hébreux, qui étaient sensibles à l'expérience religieuse, de mise en garde contre le comportement magique. Il n'en reste pas moins que le comportement magique, et là nous sommes en débat avec les universitaires, le comportement magique est une réalité. Ça concerne des choses réelles, même si dans la civilisation laïcisée contemporaine, on n'arrive plus à le diagnostiquer, mais je crois que les psychologues contemporains commencent à déceler le fait qu'il s'agit vraiment de relations à des faits de nature qui existent. Or, la conscience magique a décelé là ce qu'elle appelle le sacré. Et où est la différence? C'est que la conscience magique est sensible à un aspect des forces du sacré. Alors que la conscience religieuse monothéiste va d'emblée à l'unité de ses valeurs, qui est au-delà de toute figuration, parce que précisément elle transcende tout aspect partiel, et donc partial, de la providence dans son monde. Je ne sais pas si j'ai été clair. Vous montrez là-dessus quelque chose qui va peut-être vous amuser. L'origine du mot français abracadabra, qui est une des formules de l'imprécation. Nous, on a fait le mot abracadabra, mais avec une version en prononciation originale, abracadabra. Il y a des choses abracadabrantes. C'est la formule araméenne, abracadabra, qui signifie en araméen que ça se passe comme abracadabra. De là est venu le mot abracadabra. Vous voyez un peu l'attitude de la conscience. Et on peut voir, bien sûr, cette différence de l'expérience, c'est-à-dire l'expérience païenne, souriant à une valeur en particulier, qu'elle privilégie en lui donnant la dignité, l'honneur, mais surtout la prérogative de la force du créateur, de la force du créateur qui est l'unité des valeurs, crée l'idole. Mais on ne fait pas une idole de rien. Or, dans le postulat universitaire, où il s'agit de l'histoire des croyances et non pas des événements de la vie religieuse dans l'histoire de l'humanité, il s'agirait d'une illusion, d'un infantile. Je me réfère aux analyses qu'on a eues hier soir. Et c'est ce choc de sensibilité traditionnelle. Il y a dans la Gemara la phrase suivante. Quand tu vois un idolâtre prier devant son idole, ne te moque pas de lui, c'est ton Dieu qui veut prier, mais casse l'idole. Vous avez compris le... C'est joli. Voilà. Il y a des mythes dangereux. Pourquoi dangereux? À cause de l'immoralité. Il y a une synonyme dans le langage du Talmud. Homme et d'Avodazara, idolâtre et violent. Il y a aussi, un de mes maîtres m'avait expliqué ça comme ça. si tu vois un idolâtre passer dans la rue, change de trottoir. Parce que si tu n'as pas pitié de lui-même, il n'aura pas pitié de toi. Si déjà de lui-même, il n'a pas pitié. Alors, c'est synonyme, c'est que c'est la violence qui apparaît. Et référez-vous par exemple au livre de Marcel Girard, que tous les mythes formulent la violence du passé. Est-ce que c'est clair? Et c'est contre cela que le monadisme hébreu va lutter depuis le temps d'Abraham. Et c'est ce qui manquait peut-être dans l'exposé d'hier, en fait dans la problématique d'hier, mais on ne peut pas dire tout à la fois. C'est que dans le monastère hébreu, le souci est premièrement la moralité. Alors on rejoint le Dieu unique, l'homme, et qui est le représentable. Deuxième point d'ailleurs qui a été aussi cité, mais je ne voudrais pas en parler trop dans les conférences du soir, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'arrive pas à parler français hier soir, alors que le matin lui, je suis déphasé dans ce langage universitaire qui prend au sérieux. On aurait pu m'objecter, mais vous êtes dans un centre universitaire. J'aurais répondu, nous sommes dans un centre pour universitaire, c'est pas la même chose. Et alors voilà, je sais plus ce que vous faites, chaque fois je suis là, je parle.
Un deuxième point de la conférence.
Ah oui, c'est que il y a un phénomène de l'athéisme juif contemporain, surtout universitaire, qui est un paganisme en soi. Et d'où ça vient? Ça vient de cela. Il y a dans l'athéisme juif une tendance à la manière d'Abraham à détruire les idoles, et alors on va jusqu'à évacuer le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que cet athéisme-là, c'est la déception d'un paganisme qui avait l'idolâtrie de l'idée de Dieu à la manière des païens. Est-ce que c'est clair? Et c'est pourquoi nous sommes, je pense, dans un temps culturel important où inévitablement il y a un affrontement entre les porte-parole de la tradition et les universitaires qui parlent de la tradition. C'est pas la même chose.
Bon, tout athéisme. Est-ce qu'on peut dire que tout athéisme débouche, par exemple, sur un paganisme? Parce qu'il y a aussi un certain athéisme qui se réfère à la totalité. Et cette totalité se rapproche d'un certain monde.
Nous allons en parler tout de suite parce que monsieur m'a posé une question qui se branche. Ce que vous venez de dire, et je vais commencer par cette analyse. C'était votre question d'hier. Et
non, c'était d'autre. Mais qui venait à votre propos d'aujourd'hui.
Attendez, mais je n'ai pas terminé. Je vais juste quelque chose. Bien vers ce qu'il dit. À propos, je vous ai dit, rappelez-vous de cela, il y a 51 passages concernant l'idolâtrie. Et c'est très frappant. Qui exhorte-t-on de se méfier de l'idolâtrie, de ce que nous appelons paganisme, tant Avodah Zarah qu'Avodah Elohim, les hébreux. C'est-à-dire ceux qui ont été les premiers à être capables de recevoir la révélation monothéiste. Non pas de se faire idée du Dieu, ça c'est du déisme du Dieu unique. Mais de recevoir la révélation prophétique du Dieu unique. C'est qui est très différent. Et là, je me réfère au temps des Hébreux. Et donc, effectivement, c'était eux qu'il fallait interpeller. Pour les non-Hébreux à l'origine de l'histoire de l'humanité, dans le sens étymologique, chacun s'est Dieu à une condition. C'était d'abord le préalable de la morale universelle admise. De telle sorte que le danger de l'immoralité du paganisme soit évacué. Alors de ça, je parlerai plus en détail. Je dis, alors nous avons un verset qui dit, en parlant des idoles qu'il faut détruire, « Lota asuchel l'Hachem elokeri ». Vous ne ferez pas ainsi pour celui qui est votre Dieu. C'est-à-dire quoi? À la fois construire l'idole et la détruire. Vous avez compris? Et je crois qu'il y a un problème de la définition de l'utilisation de l'athéisme contemporain, et surtout en milieu juif, cela pose un problème de l'athéisme au nom de la morale. Bon, alors là, il y a un dialogue d'élucidation de quoi on parle à réaliser, qui n'a pas encore été fait. Mais je crois qu'il est important, juste une minute, de signaler, et je vous engage, si ces problèmes que nous posons dans ce séminaire vous intéressent, à essayer de retrouver ce livre que j'ai cité hier. Je me souviens qu'il m'avait beaucoup frappé quand j'étais jeune étudiant à Paris. Ça s'appelle Esprit d'orthodoxie de Jean Grenier. Enfin, si cet essai est encore en bibliothèque, mais. Alors, ceci peut être, cette critique qu'il fait de l'esprit d'orthodoxie peut être faite à n'importe quel milieu social, idéologique, politique, intellectuel ou religieux, fût-ce les chapelles athéistes contemporaines. L'esprit d'orthodoxie, c'est un paganisme, la forme du paganisme moderne. La tradition, c'est autre chose que l'esprit d'orthodoxie. Et cette remarque. Alors, on va essayer quand même de ne pas trop déborder sur le temps d'étude de texte, mais quand même, vous avez la parole. Rapidement.
Oui. Vous avez dit que la magie se rattachait à une valeur. Est-ce que c'est une valeur c'était le fait de privilégier une valeur par rapport aux autres. Est-ce que c'est une valeur plus spécifique à laquelle se rattache la magie, ou est-ce que c'est cette valeur peut être aussi énorme parce qu'il peut y avoir plusieurs valeurs à laquelle se
situe. C'est la manière dont chaque identité humaine à son origine et à leur origine, les manières d'être, les familles, les cultures, c'est déjà extrêmement fort, c'est pas vivre au niveau d'une culture ivresse, hein, a perçu ce dont elle parle, c'est-à-dire la manifestation du sacré dans le monde. Comportement dit religieux et d'arrêt qui est magique que la tradition hébraïque refuse. Hein, parce que nous allons nous référer à l'idée que Dieu est créateur et non pas une des forces du monde. La force suprême, l'être suprême est des forces du monde. Mais ça ne signifie pas que ces forces-là, dont parlent les hommes de conscience magique, ne soient pas des réalités. Et c'est d'ailleurs pourquoi ces conduits nous sont interdits complètement réels. Sinon, la Torah ne se préoccuperait pas de nous interdire la Torah. C'est un grand débat d'ailleurs entre Maïmonide et les Kabbalistes. Maïmonide dit c'est permis de faire de la sorcellerie le Shabbat. Les Kabbalistes interdisent de faire la sorcellerie, même le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a dans le débat? Étant donné que pour Maïmonide, la sorcellerie, c'est rien, c'est pas un travail, donc on peut faire ça. Alors, je vais vous dire, là, l'homme moderne, et probablement à partir de la Renaissance, n'est plus sensible à ces réalités dont parlaient les païens. Et n'est plus sensible parce que nous avons une relation au monde qui est celle de la modernité. Nous avons pu diagnostiquer de quoi parlaient les anciens qui parlaient d'idolâtrie. Et nous leur imputons de l'irraison infantile. Vous comprenez? Nous ne sommes pas capables de comprendre de quoi ils parlaient lorsqu'ils nous décrivent avec tellement. Il me semble, encore une fois, que les savants des sciences humaines contemporaines commencent à diagnostiquer, surtout au niveau sociopolitique ou psychosociopolitique, des forces qui, peut-être, une fois qu'elles seront diagnostiquées, arriveront à nous permettre d'identifier de quoi parler les païens lorsqu'ils parlaient de leur divinité. Par exemple, des forces dans le comportement social. Ne serait-ce qu'un phénomène comme celui de la propagande, qui commence par être la publicité des modes, et qui finit par être les impérialismes les plus sanguinaires, y compris le nazisme et c'est pas fini. Donc ce sont des forces qui sont là, et que les païens savaient bien. Et ils essayaient d'avoir des comportements de stratégie pour ou contre, enfin utiliser sans prévenir. Les psychologues contemporains commencent à pressentir qu'il y a dans l'âme humaine, conscience, subconscient, inconscient, des forces de la nature de ce sacré dont parlaient les païens qui sont des forces dévastatrices, par exemple. Voilà, je ne devrais pas arriver à ce paradoxe que pour fonder la réalité du Dieu unique dont parle la Bible, il faut aussi fonder les divinités païennes. Mais, je reviens déjà dit, il y a quelque chose de cet ordre. Je ne sais pas, vous rappelez que celui disait Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Bon, si ce Kriyat Shema, si cette phrase, prends garde Israël, celui qui est notre Dieu, le Dieu unique, a une force, c'est bien parce que c'est une arme pour lutter contre quelque chose. S'il n'y a rien à lutter contre, cette arme se dévitalise de bon par autre. Vous comprenez? Au fond, j'essaierai de définir un peu l'athéisme contemporain. Il faut élucider cela. Est-ce que ce n'est pas le propre d'un homme qui n'est même pas capable d'être païen? Alors il est athée. C'est parce qu'il n'est même pas capable d'être païen.
C'est pas juste.
Et du point de vue de l'effectuation de l'expérience religieuse. Vous comprenez? Bien. Alors, en tout cas, pardon.
C'est une question par rapport à ce que vous disiez hier. En bas du Mont Sinaï, vous disiez que les Hébreux avaient vécu l'expérience de.
Théophile.
Oui, de la Galoute et de la Géoula. Enfin, qui n'avait pour le moment qu'une expérience de foi familiale. Tradition. Hier matin.
Mara est revenue. Mara est revenue.
C'est Mara.
Mais vous ne
pouvez pas raconter
que
c'est
Mara.
Ah oui, oui.
Hein? Et donc, ils avaient une expérience de Galoute et de Géoula en bas du Mont Sinaï. Mais quelle Géoula, enfin, quelle expérience, quel type de Géoula?
Alors, je précise, reconnais-vous. C'est l'expérience de la sortie d'Égypte. Jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est l'expérience de l'aliénation de l'exil. À partir de la sortie d'Égypte, c'est l'expérience de la Géoula. Et la Torah de Moïse ne concerne que ceux qui ont eu cette expérience Galoute. Or, en dehors du peuple d'Israël, il y a l'échelle individuelle, des consciences individuelles.
Je crois que je suis athée, je crois pas. Alors le rabbin lui répondit, tu sais mon fils, le Dieu auquel tu penses, moi non plus j'y crois pas.
C'est-à-dire que le mot absolu est tout de même une sécrétion de la raison, et c'est une façon, comme toujours négative, de définir Dieu par un négatif. Absolu, c'est une détermination négative. Or, il est évident que le Dieu qui est derrière cette formule, c'est Dieu monothéiste. On ne peut pas dire, c'est donner à l'absolu des noms propres. Ça exclut tout polythéisme. Et cependant, vous aviez bien fait remarquer hier que la croyance à l'unité de Dieu, c'est un fait de foi et pas de raison. Alors, la formule inverse cette affirmation.
C'est-à-dire, sous-tendant ce fait de foi, c'est la connaissance par expérience historique de révélation qu'il y a quelqu'un qui est celui dont on parle. Vous comprenez, retenez la formule hébraïque qui est très importante, que je reviendrai dans cette analyse. Ce n'est pas que je vais vous obliger à venir jeudi soir, mais c'est pour vous pas mélanger les sujets. C'est que, je sais plus de quoi je voulais parler, c'est ça. Les dieux nous sont contraires.
Oui, la magie.
Sous-tendant ce fait de foi, c'est la connaissance par expérience historique de révélation qu'il y a quelqu'un qui est celui dont on parle. Vous comprenez, retenez la formule hébraïque qui est très importante et je reviendrai dans ces analyses jeudi soir. C'est pas que je vais vous obliger à venir jeudi soir, mais c'est...
Ça revient.
C'est la formule hébraïque qui dit que Dieu a fait le monde par sa parole. Et non pas par sa pensée, et non pas par un acte magique. Et par sa parole, ça veut dire que quelqu'un a parlé. Derrière le fait de la parole, il y a un sujet qui parle. Alors que derrière la pensée elle-même, si nous attribuons surtout le sens que les philosophes ont attribué au logos grec, qu'on traduit le verbe, mais on entend la pensée, la raison, elle, et c'est peut-être on le doit à un changement de sens qui vient du latin. Et je rêverai peut-être aussi là-dessus, notez pour me rappeler, et dire que Dieu a fait le monde par sa parole, il y a une intention théologique très claire, il y a quelqu'un qui a parlé. Parce que c'est quelqu'un qui parle. Derrière la parole, il y a un sujet. Bien. Et alors là, nous entrons dans le domaine de l'expérience de la foi. Et une particularité de la tradition hébraïque et juive, et nous n'avons que le livre des psaumes en tant qu'il est révélé, considéré comme tel, qui fait foi dans ce problème. Aucun mystique, entre guillemets, juif ne vous parle de sa foi. C'est un problème de sa vie intérieure, entre lui et Dieu, et le Dieu un, le Dieu de tous, mais vous ne trouvez pas de livres juifs traditionnels qui vous formulent des épanchements mystiques, alors que vous trouvez ça dans toutes les autres religions, dans toutes les autres... Bien avant ça, même chez les chassidim, les plus chassidim, il y a une pudeur de cela, on ne parle pas. Celui qui a cette expérience-là, et puis celui qui ne l'a pas, l'aura, c'est comme le Talmud, si tu n'as pas le Talmud t'aura. Mais il n'y a pas de ces épanchements-là. Vous comprenez, ça ne veut pas dire que cette expérience n'existe pas. C'est-à-dire le fait d'une expérience de connaissance qu'il y a quelqu'un. Je peux en parler à personne d'autre, parce que mon quelqu'un serait idole pour l'autre. et réciproquement. Vous comprenez le truc? Pourquoi il y a une histoire? Les juifs ne parlent pas de leur expérience spirituelle. Chaque fois qu'un juif se met à en parler, c'est suspect. Ou bien il a le courage de dire c'est de la poésie, ça peut être de la belle poésie. S'il dit c'est de la religion, c'est du païen. Dès que c'est sorti dehors, c'est païen, c'est figé, c'est formulé, c'est dans l'ordre du chimie. Et je reviens à ce que vous disiez, lorsque l'hébreu se réfère à l'absolu qui est l'unique unité de toutes les valeurs à la fois et qui les dépasse, il sait que c'est le nom propre, c'est de quelqu'un qui parle. Et lorsqu'il prie, il Baruch Ata, il dit, je peux vous citer Buber, mais c'est la prière, il parle à Dieu en lui disant « toi ». Et il lui parle debout. C'est un dialogue. Et Dieu dit d'Abraham, Abraham, mon ami. C'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Bon. Ça y est, c'est clair.
Je comprends trop beau. Par rapport à la situation, la première situation à laquelle on doit arriver aujourd'hui, de plusieurs à plusieurs, le schéma, dans le schéma que vous avez fait, au tableau, il y a une situation qui n'y est pas. C'est du 1, du, le 1 à 1.
D'accord. J'ai pensé hier. Alors, si vous avez bien travaillé, en dessert, on prendra la quatrième lecture. Et si ça marche, vous en aurez une cinquième. Alors, on enchaîne donc sur la deuxième situation. Okay. Mais rappelez-moi toujours bien. Bon, ben, je suis heureux, j'ai pas trop oublié de choses pour mes 50. Ah oui, sortez ce temps hier. Voilà. Je voudrais vous reprendre très brièvement, et à partir d'une autre citation que je vais vous donner, auquel j'ai perdu un certain nombre de mémoire hier, et que je vais vous lire dans le texte. Alors, je vous la cherche une minute. C'est le début du chapitre 20 dans l'Exode. Je voudrais que l'on rentre dans l'Hébreu, je vais vous la traduire. Et c'est un des commentaires de Rachid qui s'y fait, à propos du premier verset des 10 commandements. Alors, une minute. Et Dieu parla, et pour la débarrer, sous ses paroles, a aidé ces paroles-là, les mots, en disant, sur les mots, sur le mot les mots, Rachid enseigne ceci. Alors on va appeler de la question. Le premier mot des 10 commandements, c'est Anochi, Hachem, Elokim. Elokim, je suis celui qui est ton Dieu. Et nous attendions en hébreu le mot Ani, je suis. S'il s'agit là d'une définition d'identité, que Dieu donne de lui-même, et retenez qu'ici Dieu ne nous donne pas une définition théologique. Il ne nous dit pas « je suis l'absolu », il ne nous dit pas « je suis l'unique », comme vous trouvez par exemple dans d'autres ferveurs religieuses monothéistes authentiques, par exemple dans l'islam. Il ne dit pas « je suis celui qui a créé le ciel et la terre ». Il n'y a pas de formulation de type théologique cosmogonique, rien du tout. Il y a référence à un événement de révélation historique, Galut Géoula, la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est clair? Et ce verset est très fort comme fondement de la chita, comme on dit en français, de la méthode d'enseignement de Judas et lui, plus que celle de Maïmonide. Vous comprenez? Ça passe par une expérience de l'histoire et non pas par une capacité de compréhension de raisonnement théologique et pour une époque spécialiste. Vous comprenez le problème? Une tradition cohérente ne confie son message à la capacité d'être docteur en théologie. Le Dieu des hommes parle aux hommes, pas aux professeurs de religion. D'abord. Et c'est une caractéristique du récit de la Bible. Qui parle? Celui qui a créé le ciel et la terre, et pas un fondateur de religion. Et que la mienne serait la meilleure, commence le calendrier par moi. Vous comprenez le problème? Notre calendrier commence au premier homme, et pas au premier théologien, fondateur de religion. Et là, et c'est le cas particulier, à part certaines traditions extrêmes orientales, qui ont leur calendrier propre. Mais dans les religions que nous connaissons en Occident, que ce soit l'islam, la chrétienté, etc., le calendrier va commencer au fondateur de la religion. Alors, c'est pas du tout le cas des Hébreux. Et donc, si Dieu devait donner une définition d'identité ici, le verset aurait porté « Ani Hachem Elokecha ». C'est clair. Or, le verset porte « Anochi ». Et ce qui, en français, signifie « c'est moi qui suis » et non pas « je suis ». Anochi, c'est bien moi. Pourquoi? y aurait-il risque de ne pas le reconnaître? C'est clair? C'est là-dessus qu'on règle la chine. Alors je vous dis la chine et je traduis simultanément. Asher Otsendiha Meret Israël. Qui te fait sortir du Bengé? Voilà la définition que je donne de lui-même. Kedai Hi Haosa. Ce fait que je vous ai fait sortir de l'Égypte, ça valait la peine. Pourquoi? Tout de suite, sorti de l'Égypte, les Hébreux et les Hébreux disent « Ah, nous regrettons les potions de l'Égypte. » Vous vous rappelez? Dis « Non, non, ça valait la peine. » Et où tu nous amènes? Dans un chantier qu'il faut construire au sein de l'hostilité universelle. Ils ont eu peur de nous. Et ils ont dit « Nous regrettons les allocations familiales. » Quel homme là, en français, souvent pas dans les rêves, j'ai des rêves dès qu'on parle français. Alors, Kedai Yaouza, bon, je reviens à Rachid. Ça valait la peine. J'ai dit, you, mais je m'en dis, oui. Ça valait la peine que vous sortiez de cet asservissement à l'aliénation de la Avodah Zarah de l'Égypte. Quel homme là, en français, souvent pas dans les rêves, j'ai des rêves dès qu'on parle français. Alors, Kedai Yaouza, bon, je reviens à Rachid. Ça valait la peine. J'ai dit, you, mais je m'en dis, oui. Ça valait la peine que vous sortiez de cet asservissement à l'aliénation de la Avodah Zarah de l'Égypte, civilisation que nous savons, les modernes, on voulait avoir une civilisation. Il faudrait trouver un adjectif colossal à l'échelle des pyramides, une civilisation de haute culture, mais qui était devenue un empire totalitaire, dont le signe de l'immoralité était l'invention des camps de concentration. Ils avaient imité les Babyloniens, du temps d'Abraham, mais ce que nous raconte la Bible, c'est aussi très clair. J'ai dit, mais je vous ai dit, oui. Alors ça valait la peine que vous sortiez de cet asservissement pour devenir mes serviteurs. Et en d'autres termes, ici, Rachid nous désigne un peu ce dont nous avons parlé. Cette expérience Galout Geboula a forgé les hommes prêts, disponibles à écouter la loi du Dieu unique. Il faut d'abord passer par cette expérience pour savoir qui est ce Dieu d'Israël qui se révèle à travers les prophètes hébreux. Il parle dans une invitation au salut, et salut de quoi, encore une fois, ça nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, de la condition de créature. La condition de créature étant une condition d'aliénement total, Shaboud en hébreu, une condition d'exil total, et de cela, l'homme sait qu'il peut être sauvé parce qu'il a entendu cette bonne nouvelle de la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est clair? La Pâque, dans le sens juif. Et voilà la première note de Rachid. D'abord, deuxième explication. Chenila Bayam Kekibor Milchama, comme ce que j'ai cité hier. Parce qu'il s'était révélé à eux, au passage de la mer Rouge, Gibor Milchama, un héros de guerre. J'explique peut-être très, très rapidement. Au fond, la question de perplexité, au moment de la sortie d'Égypte, du peuple hébreu, rappelez-vous, un ramassis d'esclaves, sortant des camps, sortant des ghettos, sortant des. Et avec mentalité d'esclaves sur les 4/5 de lui-même, du point de vue du nombre, je cite les récits bibliques. À qui on dit, ben vous allez voir, quels que soient les conditionnements, les déterminations que l'histoire vous a fait vivre, vous allez en être libéré. Et on arrive devant la mer Rouge, et là, c'est la dernière épreuve, mise à l'épreuve de Dieu. Est-ce que tu peux être plus fort que tes propres lois de la nature, okay? Et vous rappelez dans les textes cette panique d'Israël, le sorti d'Égypte, la mer Rouge devant, l'armée égyptienne arrivant derrière. Et alors, la question peut être formulée de cette manière, est-ce que Dieu peut faire que nous battions l'armée égyptienne alors qu'on n'a jamais su faire la guerre. Alors, nous, il leur a dit, vous allez voir. Alors, comment diagnostiquer cette providence qui intervient pour eux? Eh bien, ils pouvaient dire, au passage de la mer Rouge, quelle louange dire à ce Dieu qui est intervenu pour nous, ce Dieu des ancêtres dont on nous a dit, il y a une promesse et vous verrez qu'elle s'accomplira. Et qu'elle s'accomplira. Malgré toute l'invraisemblance, on ne sort pas d'Égypte, et voilà, on est sorti d'Égypte. Eh bien, ils auraient dit, Gibor Milchama, il est aussi héros de guerre. Venir la canne, Kezaken, Malé Rachamim. Et ici, au Sinaï, il se révèle, Kezaken, Malé Rachamim, je vais vous traduire ces trois mots. Zaken, ça veut dire un vieillard. Malé Rachamim, plein de miséricorde. Donne la loi morale. c'est la figure du Roger Shiva. Zaken, c'est le Talmid Chacham. Petite parenthèse, nous avons un commentaire en hébreu. Zaken, ça veut dire le vieillard, pas le vieux, mais le vieillard. Et le Midrash dit Zekana Chokma. Zaken, Zekana Chokma. Celui qui a acquis la sagesse. Et là, on pèse Zaken très jeune. Par exemple, Rabbi Lazar ben Azaria, à l'âge de 18 ans, vous connaissez l'histoire dans la Gada de Pessah. Je referme la parenthèse. Et, parce qu'il y a deux, au moins deux formes d'accès à la sagesse. D'abord, par la connaissance. Et aussi cette forme de sagesse qui est indispensable et qui est l'expérience que donne le temps de l'âge. Est-ce que c'est clair? Et c'est pourquoi c'est le mot qui va être préféré par l'hébreu traditionnel pour dire un véritable sage. C'est celui, Zekana Chokhma, c'est le Zaken. Bon, c'est pas nécessaire qu'il ait des cheveux blancs, mais ça s'appelle Seba, mais en hébreu. Mais ici, la question, c'est que si Dieu avait un visage, au passage de la mer Rouge, ce serait Kibor Milchama. Mais ici, voilà qu'il y a une expérience radicalement différente. Zaken Malerachamim, celui qui donne ce que nous appelons en hébreu, talmudique, la loi de miséricorde, la loi morale, puisque chaque fois que nous citons le texte de la Torah, nous disons dans le Talmud, Rachamana Amar. Ça, les musulmans comprennent mieux en arabe, puisque c'est à peu près le même mot que Rahman en arabe. Rachamana Amar, c'est l'araméen, ça veut dire le miséricordieux nous a dit que dans sa Torah. Donner la Torah, c'est le plus grand signe de la miséricorde. Et alors, deux expériences tellement différentes à ce moment-là, à laquelle nous, maintenant, depuis tout ce temps-là, nous sommes familiers que l'un c'est l'autre. Et c'est cela qui est, et Romrim l'Hermen, et authentifié, justifié. Il dit, vous allez être surpris, dit Dieu, de me voir vous parler la Torah, alors que jusqu'à présent, vous m'avez connu comme faisant réussir votre histoire, à travers des comportements historiques, des comportements, à la limite, sociopolitiques, finalement, le passage de la mer Rouge, et ce qui est arrivé aux Égyptiens. Eh bien, prenez garde, c'est moi, lui. Lui, c'est moi. Ani, vous. Et ce que je veux mettre en évidence, c'est que pour l'expérience immédiate de la conscience humaine, c'est pas évident que l'un ce soit l'autre. Que le Dieu de la foi soit le Dieu de la loi. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, je vais essayer, je ne sais pas s'y arriver, de mettre en évidence ce paradoxe dans l'expérience contemporaine que nous avons de ça. C'est-à-dire que vous avez des Juifs qui ne sont pas du tout des disciples de Moïse du point de vue de la pratique de la loi de Moïse. De ce qu'on pourrait appeler en français contemporain la religion juive. Bon, la religion d'Israël. Mais qui ont une foi juive, je ne sais pas comment vous dire, en béton armé. Or, cette foi juive de participation à l'identité juive et à son histoire, à quel niveau elle est authentique? Au niveau de cette dialectique Galut-Géoula. Nous sortirons de notre condition d'aliéné. Nous sortirons de notre condition anormale du juif de l'exil. C'était ça la foi juive à l'arrivée au pied du Sinaï. Vous avez compris. Et vous pouvez avoir au contraire, paradoxe, des juifs qui sont les disciples de Moïse du point de vue de la pratique de la loi, mais qui n'ont pas la foi. Parce qu'ils se sont trompés d'adresse. Ils rêvent de la foi théologique alors qu'il s'agit d'une foi historique. Ça y est, c'est clair? Bon. Alors c'est toute cette élucidation qu'il faut faire. Quelle était la foi des Hébreux avant même le don de la Torah? C'était la fin de l'exil et aller en Israël. Je suis désolé, c'est comme ça et pas autrement. C'est ça la sortie. Et c'est ça la foi. Et alors, la plus...